Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, je reçois Julien Delpech, cofondateur de la startup Invivox, considéré comme le Airbnb de la formation médicale, fondé en 2015 et aujourd'hui référence mondiale. Cette discussion passionnante vous conduira aux quatre coins du monde, au gré des expériences de Julien dans la santé. Il nous partage ses apprentissages à chaque étape de l'entrepreneuriat, de son premier échec jusqu'au grand virage d'Invivox en mars dernier, lorsque la startup bordelaise a été forcée de réinventer son business model afin de former 35 000 professionnels de santé en seulement 3 mois. Il m'est très difficile de vous lister uniquement 3 apprentissages tellement cette discussion saura vous inspirer pour votre aventure entrepreneuriale en santé. Dans cet épisode, Julien nous explique quelles sont les clés d'une levée de fonds réussie en santé, pourquoi est-il important de rester à la fois focus et agile quand on entreprend, et comment réinventer son business model pour réussir en temps de crise. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir Julien Delpech, le CEO d'Invivox. Salut Julien, ça va ?
Oui, bonjour Jean-Baptiste, c'est une chance, c'est un honneur pour moi aussi.
Super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Julien. Aujourd'hui, donc on va passer les 45 prochaines minutes à revenir sur ton parcours entrepreneurial dans la santé. On va partir de qui es-tu, d'où tu viens, jusqu'à, de toute façon, tes expériences aujourd'hui avec Invivox. Parce que toi, Julien, donc t'es diplômé donc d'un BBA de l'ESSEC, puis d'un master en marchés internationaux, planification statistique que t'as obtenu à Moscou, en Russie. T'as travaillé pendant plus de 15 ans dans les opérations vente et marketing de plusieurs groupes internationaux leaders dans la santé, aux quatre coins du monde en plus. Et t'en as profité pour monter 2 sociétés, écrire un livre, entre autres. Et aujourd'hui, donc tu as finalement cofondé Invivox il y a 5 ans. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de matière à discuter. Avant qu'on parle d'Invivox et de ton aventure entrepreneuriale plus récente, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Qui es-tu, d'où tu viens et comment cet attrait pour le secteur de la santé t'est venu ?
Écoute, si le philosophe dit que pour réussir sa vie, il faut faire un fils, planter un arbre et écrire un livre, bah, je peux m'arrêter. Puisque comme tu l'as bien résumé, j'ai fait les 3, j'ai eu cette chance, ça a été un effet d'opportunité. Alors plus concrètement, d'où je viens, alors moi je suis né à Marseille, alors les gens disent qu'on a des racines, moi j'ai pas de racines, hein, c'est les ficus qui ont des racines, moi je suis né par hasard à Marseille et c'est une ville, une région que j'aime beaucoup, c'est une ville que j'ai aimé quitter dès que j'ai pu la quitter aussi, et j'y reviens toujours avec plaisir, mais je ne me sens attaché à aucune terre en particulier.
Et, tu t'es finalement installé à Bordeaux même, je te coupe.
Alors j'ai installé Invivox, la société à Bordeaux, ouais. Toute l'équipe, hein, on est une trentaine aujourd'hui à Bordeaux, mais moi je suis installé à Paris, parce qu'en fait il faut aujourd'hui, hein, l'État français est resté un État assez colbertiste, où malgré les régions et tout ça, bah, les choses sont assez centralisées, les clients, les grands clients ont leur siège à Paris, et donc moi je vis et j'habite à Paris avec ma famille, et je fais les allers-retours à Bordeaux une fois par semaine, je viens passer le lundi et mardi à Bordeaux, d'accord, et le reste du temps à Paris, c'est comme ça qu'on s'est organisé.
Ok.
Donc voilà.
Donc du coup, ouais, tu es parti de Marseille.
Je suis parti de Marseille. J'ai fait. Et puis j'ai eu la chance quand j'étais jeune. C'était l'époque où l'URSS était en train d'imploser. J'ai eu la sensation de laisser l'histoire s'écrire sans moi. Et très très rapidement, dès que j'ai pu, j'ai sauté dans le premier train et je suis parti à Moscou. J'avais convaincu mon école de commerce de monter un échange avec une école ultra prestigieuse en Russie, hein, c'était l'Institut Plekhanov, et je me suis retrouvé comme ça le premier français ou même étranger, je crois, dans cet institut, pour suivre des cours d'économie statistique planifiée, puisque les professeurs avaient l'âge de l'URSS, on va dire.
Et tu parlais russe, toi ? Parce qu'à cette époque-là, j'imagine qu'ils ne parlaient pas anglais dans les masters comme ça.
Oui, je parlais russe. Ouais. Ouais, je parlais russe. J'ai appris le russe à l'âge de 10 ans. Et je me suis passionné pour cette langue, pour cette culture. Ben, de toute façon, il faut de la passion pour apprendre les langues, pour aimer les choses. Donc voilà, moi, comme je me suis passionné très rapidement pour la Russie, je suis parti en Russie. J'ai fait mon service militaire en Russie. Moi, je voulais faire mon service dans les chasseurs alpins. Bon, ben, la neige, j'en ai eu. Ça n'a pas été tout à fait les chasseurs alpins, mais c'était mon service militaire en Russie.
Ouais. Attends, quand tu dis que tu as fait ton service militaire en Russie, toi, tu as une double nationalité ou
Non, j'ai fait mon service militaire français.
D'accord.
Mais à l'époque où on pouvait faire des services militaires.
Il y avait des missions à l'étranger, d'accord.
Il y avait des missions à l'étranger, alors c'était...
Enfin, je te pose des questions, moi, c'est plus du tout d'actualité.
Du coup, je ne connais pas les détails. Mon âge, voilà, hein, à 40, ouais. J'ai 46 ans. effectivement, je faisais partie des deux ou dernières années avant que Chirac décide de professionnaliser le service militaire, ce qui est une vaste connerie entre nous soit dit, mais bon, c'est pas ça, c'est pas le sujet de la discussion. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le monde de la santé, puisque c'est les laboratoires Ipsen à l'époque qui cherchaient quelqu'un pour créer et animer la visite médicale à travers tout le territoire de l'ancienne Union soviétique. Et c'est comme ça que j'ai mis mes pieds en Russie et que j'ai lancé donc ma carrière dans le monde de la santé.
D'accord. Donc, c'était quoi ton premier job en Russie ?
C'était justement de recruter des visiteurs médicaux. Alors, ce qui était marrant à l'époque, c'était qu'en Russie, pour être visiteur médical, il fallait, c'est vraiment, c'était le tout début, hein, il fallait absolument être médecin. C'est-à-dire qu'un médecin ne recevait pas quelqu'un qui n'était pas médecin. Et donc, on allait recruter à travers vraiment toutes les villes de l'Union soviétique. Et Ipsen avait vraiment mis les moyens pour se développer en Russie, hein, puisque l'équipe de visiteurs médicaux a été constituée d'une centaine de personnes. Et donc, on allait recruter des médecins. Et moi, j'étais connu à l'époque, notamment dans toute la boîte Ipsen et pendant les séminaires, parce que sur les 100 visiteurs médicaux que j'avais recrutés, j'avais plutôt recruté des visiteuses. Je crois qu'il y en avait au moins 95.
D'accord.
Et je les avais recrutés parce que je trouvais les femmes en Russie beaucoup, beaucoup plus sérieuses que les hommes. Et qui étaient beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, la motivation aussi était énorme. Donc en fait, voilà, j'étais assez connu au sein d'Ipsen pour être...
Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un visiteur médical ? Parce que du coup, sur le podcast, il y a vraiment des gens qui viennent de plein de branches différentes.
Oui, bien sûr. Dans la santé. Alors le visiteur médical, vraiment on va dire dans l'ancien monde, hein, parce que depuis l'arrivée, l'avènement de l'ère post-covidienne, les choses ont beaucoup changé, et notamment le rôle du visiteur médical a beaucoup changé. Mais le visiteur médical tel qu'il a été créé, c'est un représentant commercial qui s'adresse au médecin, donc qui fait la visite de médecin. Il envoyait entre 5 et 10 par jour à l'époque, et qui va expliquer aux différents médecins l'intérêt d'un produit, les caractéristiques d'un produit, et évidemment avec pour but de convaincre le médecin d'utiliser un médicament, un dispositif médical. Donc un visiteur, c'est vraiment le métier. Ouais.
D'accord. Et donc toi, tu étais en charge de leur recrutement. Et finalement, qu'est-ce que ça t'a appris et comment tu as bougé après dans ta carrière à la suite de cette expérience ?
C'est une expérience extraordinaire parce que j'avais 24 ou 25 ans. C'était une responsabilité assez immense. Et puis, c'est surtout, moi, ce que ça m'a appris, j'ai recruté des gens qui avaient tous entre 30 et 50 ans. Et finalement, quand tu as 25 ans et que tu fais face à des gens qui ont entre 30 et 50 ans, qui ont un background, ils avaient tous été formés dans l'Union soviétique. Ils étaient tous médecins, je ne l'étais pas. Et donc, finalement, en fait, tu t'aperçois que dans ces cas-là, la seule manière de fonctionner au niveau du management, c'est d'écouter les gens, c'est d'être celui qui écoute. Et puis, celui qui écoute, qui est capable de prendre des décisions et tout ça, mais d'être énormément dans l'écoute. Et d'ailleurs, moi, c'est toujours comme ça que j'ai appris. C'est en posant beaucoup, beaucoup de questions et en étant le plus curieux possible. Et la curiosité, moi, c'est une de mes valeurs fondamentales. Hein. C'est ce que j'avais essayé de développer, peut-être naturellement au tout début, notamment en apprenant le russe, et qui aujourd'hui, tu vois, continue de gouverner ma vie.
Oui, et puis j'imagine, en plus, de par ton âge, ta nationalité et l'industrie, t'as cumulé là. C'est que tu devais vraiment te rester très humble, très, on va dire, petit et curieux dans ton approche pour pouvoir les convaincre.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Quand on s'adresse à des médecins qui ont des X années d'expérience, qui peuvent sûrement avoir une certaine fierté et qu'il faut les convaincre de nous rejoindre pour quelconque offre, ça doit être un vrai challenge.
Alors, donc, c'était un challenge, ouais. Mais juste quand même, tu vois, parce qu'on revient sur une période qui est fantastique, cette période post-Union soviétique. Les médecins, il faut quand même prendre en compte qu'ils étaient payés, hein, en équivalent euros ou dollars, entre 80 et 150 dollars par mois, hein, à l'époque soviétique.
Ouais,
et que nous, en laboratoire, on proposait tout de suite un salaire qui est avec une voiture, qui était une chose assez extraordinaire, des voyages en France pour se former aux produits en France. Et donc, en tout cas, convaincre ces gens-là de nous rejoindre, ce n'était pas non plus la mission la plus difficile qu'on m'ait donnée.
D'accord, ok. On ne va pas parler tout de suite de ta mission la plus difficile. J'aimerais qu'on bascule du coup sur comment tu en es arrivé, toi, donc à travers tes différentes expériences, de fil en aiguille vers l'entrepreneuriat.
Alors, l'entrepreneuriat, je pense que je l'avais vraiment en moi. Je le sentais depuis toujours que j'étais fait pour lancer des projets. Je n'avais pas forcément décidé quel projet quand j'étais petit, puis quand j'étais jeune, mais je savais qu'à un moment, j'allais me lancer. Et finalement, j'attendais la bonne opportunité, j'attendais pas forcément la bonne idée, parce que je pense que quand on attend la bonne idée, le risque, c'est surtout de ne jamais se lancer, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des bonnes idées. Moi, j'ai jamais eu de bonnes idées pour lancer. J'ai vu à un moment des opportunités, j'ai saisi qu'il y avait des choses qui se... des étoiles qui s'alignaient, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Je me suis lancé après quelques années dans l'industrie pharma. Je revenais d'Amérique latine. J'avais passé quelques années pour Ipsen. Et puis, il y a eu un produit qui était disponible. On m'a proposé ce produit en licence. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans un premier temps. J'ai monté ma première société. Et puis ensuite, cette première essai n'a pas été non plus d'une grande réussite. Et finalement, j'ai replongé dans le monde de l'entreprise, entre guillemets, pour me refaire, hein, très concrètement.
C'était quoi, juste en deux mots, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu proposais ?
En fait, j'avais récupéré un produit en dermocosmétique, et c'est un produit qui a très très bien fonctionné, et suite à un contrat très mal ficelé, et donc ça c'est vraiment une erreur de ma part, ce produit m'a été retiré, a été repris, devant le succès rencontré par le producteur. Et du jour au lendemain, au bout de deux ans, j'avais bien développé ce produit, puis j'ai perdu ce produit. Le producteur a décidé de le récupérer. Ça a été assez brutal, ça a été assez violent. Et puis c'est là où je m'étais surtout rendu compte de l'intérêt de mettre des avocats quand tu signes un contrat et que le prix que tu payes un avocat, qui peut paraître très cher au moment où tu le payes, en fait, ce prix, il est complètement dingue le jour où tu perds un contrat et que tu t'es dit et que tu as fait ça sans avocat. Donc voilà, on apprend tous les jours. Hein.
Donc ouais, un apprentissage de plus, quoi. Et là, tu avais quel âge donc,
J'avais 30 ans.
Enfin, c'était en quel âge ? J'avais 30 ans, d'accord, ok.
Et puis, donc, je suis reparti travailler pour une société américaine dans la santé, la société qui développait le Botox. C'est une belle expérience, en fait, de se frotter à un management américain après avoir travaillé pendant longtemps avec des Français, de voir comment ça fonctionne, les différences. J'ai continué comme ça quelques années d'une société américaine à l'autre. J'ai travaillé dans une CRO qui était spécialisée dans les cellules souches, où là, je faisais du recrutement de centres européens pour justement les inciter à rejoindre des études cliniques dans les cellules souches. Avant de créer, en fait, InVivox, hein, il y a 4 ans de ça, où, en fait, c'est en travaillant avec ces gens-là, et quand je dis qu'il ne faut pas attendre la bonne idée pour se lancer, c'est simplement, j'ai vu en travaillant avec des chirurgiens, que les chirurgiens me disaient, voilà, quand on a besoin de se former, nous, la formation qu'on plébiscite, c'est la formation en compagnonnage, c'est-à-dire d'aller chez un confrère, en France ou à l'étranger, pour découvrir sa technique, pour découvrir sa manière de fonctionner, d'opérer, comment il aborde un sujet particulier. Et c'est en fait en comprenant ça, et surtout en comprenant que paradoxalement, parce que c'est ce qu'il me disait, c'est très compliqué aujourd'hui d'organiser ça. Et c'est là où je me suis dit, bon, y a des gens comme Airbnb qui ont fait la même chose avec des appartements, et que finalement, j'ai honteusement pompé le concept Airbnb pour proposer à des experts d'ouvrir leur bloc opératoire à d'autres médecins du monde entier.
Ouais, et d'ailleurs, l'Express titrait du coup en 2018 le Airbnb de la formation médicale. C'est toujours d'actualité. Tu le considères toujours comme ça ou qu'est-ce que vous faites de mieux? Qu'est-ce que vous faites de différent d'Airbnb?
Alors, mieux que Airbnb, ça serait hyper prétentieux, hein, parce que c'est une plateforme qui invente. Nous, on copie, on adapte, et on essaye d'améliorer. Mais en fait, je pense que nous, on a beaucoup évolué. C'est-à-dire que on a dû à un moment aussi changer notre modèle, et ça a été en partie dû à la crise. Donc, au départ, on était une plateforme Airbnb puisqu'on permettait à des chirurgiens non pas d'aller dormir chez d'autres chirurgiens, mais d'aller se former dans les blocs opératoires d'autres chirurgiens. Donc c'est pour ça l'analogie avec le titre à Airbnb. Et puis petit à petit, en fait, on a commencé à ajouter d'autres services, hein, puisqu'il y avait énormément de chirurgiens dans le monde qui nous disaient qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le temps d'aller se former les uns chez les autres. Et donc on a commencé à lancer tout plein de services distanciels, c'est-à-dire la possibilité de se former à travers des outils du digital. Et c'est ce qu'on avait prévu en 2020. Et évidemment, l'arrivée de la COVID a accéléré, voire bouleversé tous nos plans.
Ouais. Juste pour revenir sur la création d'Invivox, toi, quand tu t'es lancé seul dans cette aventure, ou est-ce que tu as été dès le début accompagné de ton cofondateur actuel?
Ouais, alors, moi je crois fondamentalement dans les équipes. Hein, je pense qu'on est plus fort quand on est deux cerveaux et même quand on est cinq cerveaux. Et quand on a créé Univox, au départ, on était cinq cerveaux. On est mon associé actuel, plus trois autres personnes hein, que je connaissais historiquement qui avaient accepté de se joindre à l'aventure avec des conditions qui étaient très claires pour chacune d'entre elles hein, dès le départ. C'est-à-dire que, voilà, qu'ils s'engageaient à donner l'un 6 mois, l'autre 1 an, l'autre 3 mois. Et en disant, voilà, nous, on va pas se mettre à 100%, hein, mais on va donner un premier coup de main au départ chacun parce que ben, on est des spécialistes. On a eu la chance hein, d'être au départ de cofonder Invivox avec Fabrice Poblan, qui est un entrepreneur dans la santé, qui avait monté plusieurs sociétés, qui en a monté une, qui l'a revendue, qui avait une grosse, grosse expérience aussi dans les levées de fonds. Nous, on n'avait jamais fait de levée de fonds. Et donc, on s'est entouré de gens qu'on connaissait, qui avaient démontré plein de qualités. On s'est aussi entouré d'un gars qui s'appelle Richard Rohou, qui a une agence digitale à Paris et en Bretagne. Et c'est lui qui nous a aidés, puisqu'en fait, on n'y connaissait rien en digital, hein, c'est lui qui nous a aidés à créer la plateforme. Et non seulement qui nous a aidés, mais qui l'a créée pour nous avec ses équipes. Et donc au
Donc,
départ, pardon.
ouais, non, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous avez su vous compléter pour chaque compétence, trouver le meilleur profil qui puisse contribuer à la création d'Indievox.
Exactement. Et pour moi, c'est fondamental. En fait, alors on y laisse quelques plumes, hein, évidemment, hein, puisque bah, quand les gens créent quelque chose avec nous, bah, on a laissé des parts. Mais franchement,
Ouais.
c'est des bonnes plumes. Moi, je suis content d'avoir. Parce qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui sans eux. Donc voilà, je pense que c'est. Bah, quand on se lance dans une start-up, quand on est prêt à lever de l'argent, bah, on sait qu'on va laisser de toute façon des plumes à droite et à gauche. Et il faut l'accepter dès le départ et de dire que ça fait partie du jeu.
Et c'est marrant parce que du coup, à travers tes différentes expériences, on comprend que tu as une certaine capacité à rallier des gens pour des projets, que ce soit recruter donc ces visiteurs médicaux à Moscou ou là avec Invivox. On sent, je pense, quand on te parle, et j'imagine ça devait être à l'époque encore plus vrai, quand quelque chose t'anime et que tu es motivé pour entreprendre. Je pense que c'est un atout, quand on se lance, avoir cette force de savoir être convaincant et être animé par son idée, son projet. Je pense que ça se sent.
Ouais, mais après, enfin, tu vois, c'est du Hegel, hein. Rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans enthousiasme. Et c'est vrai que, enfin, l'enthousiasme, je pense, est une qualité fondamentale pour rallier du monde. Et on a besoin d'enthousiasme quand on est entrepreneur. On a besoin d'une dose d'optimisme, d'une dose de folie, d'utopie quand on est entrepreneur aujourd'hui. Mais effectivement, enthousiasme rallie le monde.
Toi, tu as été accompagné ou tu as eu un mentor dans l'entrepreneuriat ou je sais pas, même carrément une structure. Est-ce que vous avez eu un incubateur à un moment qui vous a aidé à vous lancer pour par exemple ne pas reproduire la même erreur que tu avais donc commise dans ta première aventure entrepreneuriale?
On était 5 associés, on s'est beaucoup vu au départ. Mes mentors, ça a été mes associés, on a beaucoup discuté. Et puis ensuite, on rencontre beaucoup de gens. Et je pense qu'en fait, ce qui est aussi un piège quand tu es entrepreneur, c'est que tout le monde veut te conseiller, tout le monde veut t'expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut faire les choses. Et en fait, au bout d'un moment, il faut être capable de trier le bon grain de livret ou dire voilà, on ne peut pas suivre tous les conseils parce que tout le monde a des super bons conseils. Alors les gens sont généralement prêts à donner plein de conseils, mais rarement à les mettre en pratique. C'est facile de donner des conseils. Donc je crois que être entrepreneur aussi à un moment, c'est de se dire bon voilà, nous on était 5, on avait pris des décisions, on avait suffisamment de compétences autour de nous aussi pour se dire bon ok, maintenant on y va, on fonce, on met les mains dans le cambouis, on développe, on code et on sort ce pourquoi on s'est mis d'accord.
Et avec quels moyens financiers vous êtes lancé au tout début? Est-ce que vous avez chacun mis vos économies, j'imagine, sur la table? Et en même temps, est-ce que vous avez pu avoir le soutien, que ce soit d'une certaine communauté, je ne sais pas.
Alors, c'est une question hyper importante. Et c'est là où le fait d'avoir 46 ans, enfin à l'époque j'en avais 42, a aussi joué son rôle. Mon associé à mon âge, les trois autres compères, ils ont exactement le même âge. Pour lever de l'argent au départ, bon, on a mis nos économies, hein, on avait réuni 200 000 euros pour se lancer. Et surtout, en fait, au lieu d'aller lever de l'argent un petit peu classiquement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un roadshow, qu'on avait tous un réseau dans différentes villes. Et on est parti vraiment faire un roadshow. On a fait un premier roadshow où on est allé à Paris. À Paris, on a invité les médecins qu'on connaissait, les industriels qu'on connaissait, les copains aussi qu'on connaissait, en disant à tout le monde, voilà, on est en train de monter ce projet, on va vous présenter le projet, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir éventuellement investir dedans si ça vous intéresse. Même à l'époque, il y avait un dispositif qui permettait de défalquer 50% de ton investissement dans les startups. Alors, c'est intéressant. Et là, on a eu énormément de succès. C'est-à-dire qu'on a réussi à réunir en 4 roadshows, hein, un à Paris, un à Bordeaux, un à Lyon et un à Marseille. On a réuni 750 000 euros.
Hein, vous avez fait votre première levée de fonds avec tous ces médecins et amis. Donc vous avez en fait réussi à étendre cette love money que certains investisseurs vont aller chercher, certains start-upers vont aller chercher au tout début, à carrément vos utilisateurs d'après en fait.
Exactement. Et en fait ça a été assez fondamental parce que au même moment, mon associé a rencontré le fonds Isaïe et en fait ce qui a convaincu Isaïe d'investir chez nous, en dehors bon du projet, de l'équipe et tout ça, tout le classique, c'est le fait que il y avait déjà une trentaine de personnes qui avaient déjà investi 750 000 euros, et notamment essentiellement des médecins et des industriels de la santé. Donc en fait, ça validait...
Oui, ça crée l'attraction pour après, quoi.
Et ça validait le projet, en se disant, voilà, si ces gens qui travaillent dans la santé, dans la formation, ils sont prêts à investir, c'est qu'il y a un vrai besoin. Et finalement, Isaïe a investi le montant équivalent, et donc on a pu lever comme ça, en seed, hein, comme on dit, 1,5 million dès le début.
Ok, super. Maintenant, on a un peu couvert le lancement d'Invivox. Qu'est-ce que vous offriez au tout début? C'était quoi le besoin que vous aviez identifié? Et c'était quoi la première idée que vous vouliez pitcher à toutes ces personnes-là?
Ah, c'était hyper simple. Tout tenait sur un seul mot, le compagnonnage. Hein, le compagnonnage médical, c'est aussi vieux, j'allais dire que c'est le plus vieux métier du monde. Peut-être encore plus vieux que celui auquel on pense. En tout cas, c'est la manière dont les médecins, depuis même que les premiers hommes sorciers font de la médecine, se transmettaient la médecine. Hein, c'est-à-dire, voilà, je passe du temps, je découvre, j'apprends avec l'autre. Et le compagnonnage médical, nous, on a créé Invivox sur le besoin de compagnonnage médical. Et les médecins nous disaient, voilà, c'est formidable, des experts, il y en a partout, sur tous les podiums. Ils descendent du podium. et on a envie d'en savoir plus parce qu'ils ont fait une allocution qui a duré 12 minutes. Donc on a envie d'en savoir plus, on a envie d'aller les voir dans leur bloc opératoire opéré. Et donc on leur envoie un email. Ils répondent rarement aux emails. Hein. Pour info, hein, en France, les médecins reçoivent en moyenne 380 emails par jour, dont 360 non sollicités. Enfin, donc voilà, c'est un truc assez dingue.
Donc, oui, je peux en témoigner. Je travaille sur un projet en ce moment, j'essaie de contacter des médecins spécialistes, c'est un enfer.
Non, bien sûr, mais ils sont sursollicités. Et donc, ils ne lisent que les emails, donc ils reconnaissent les emails des confrères et tout ça. Tu ne peux pas lire 380 emails par jour. Mince, on dirait un supplice chinois. Et donc, en fait, les médecins nous disaient, voilà, quand on veut essayer de communiquer avec ces médecins, déjà, on a du mal. Pour ceux qui éventuellement répondent, ensuite, on s'échange 25 emails pour trouver une date à laquelle on va pouvoir passer du temps ensemble. À un moment, il faut parler d'argent. Hein, est-ce que la formation est gratuite? Est-ce que la formation est payante? Hein, et si elle est payante, je paye comment? Je viens avec du cash, j'envoie un virement. Et ensuite, en fonction d'où est la formation, il faut s'organiser logistiquement. Hein, parce que un médecin marseillais peut aller se former à Montpellier, mais avec notre plateforme, il peut aussi aller se former à Tokyo ou à San Francisco s'il le veut. Enfin, s'il le voulait, hein, puisqu'on parle d'une autre époque. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a dit, écoutez, toute cette partie qui est complexe, on va la démocratiser. Et on va aller travailler avec les experts en leur disant, monsieur l'expert, monsieur le professeur, dites-nous quand est-ce que vous êtes disponible pour recevoir dans votre bloc opératoire, dites-nous les dates auxquelles vous avez des opérations, donnez-nous le thème, donnez-nous le nombre de personnes que vous pouvez recevoir au bloc opératoire, parce qu'on ne peut pas recevoir des dizaines de personnes. Donnez-nous éventuellement un prix, ça peut être gratuit, et dans de très nombreux cas, c'est gratuit. Si, ou alors ça peut être payant, c'est les médecins qui décident. Et nous, on va mettre en ligne, hein, comme Airbnb met en ligne ses appartements, et on va pousser en fait ce contenu vers une communauté médicale. Donc si on est sur de la cardiologie interventionnelle, on va pousser vers la communauté de cardiologues interventionnels mondiale, si la formation est en anglais, pour leur dire, vous pouvez venir vous former avec le professeur Cribier, qui a été un des premiers à se lancer avec nous au CHU de Rouen, hein, c'est l'inventeur du TAVI, et c'est lui, depuis 4 ans, qui reçoit en permanence des médecins du monde entier qui viennent bénéficier de son savoir-faire, qui viennent voir des cas en live, et qui découvrent une nouvelle approche, une nouvelle technique, comme ça.
Mmh. Super. Et donc là, vous aviez déjà quelque chose à leur présenter, je ne sais pas, une POC, Proof of Concept, vous aviez déjà une plateforme un petit peu dessinée avec quelques utilisateurs dessus quand vous alliez pitcher?
Oui, complètement, oui. Ouais, on avait créé une vidéo, mais une vidéo d'un site qui n'existait pas. Donc le site avait été dessiné intégralement. Et on avait, en fait, il avait dessiné comme un dessin animé. Vraiment, c'était un dessin animé. Ouais. Et les gens, et ça avait tellement bien fait par l'agence de notre associé, l'agence R2, que les gens pensaient qu'on avait déjà un site qui existait. Alors nous, l'idée, c'était pas de faire semblant. Hein. On avait fait ça pour montrer. Mais c'était tellement bien fait que tout le monde pensait que ça existait. Et donc, qu'on était sur le point de se lancer. Et c'est vrai que ça a aidé à convaincre énormément d'experts en leur disant, regardez ce site, comment il fonctionne, comment il est beau. Ensuite, en fait, ça a attiré beaucoup de monde.
Hyper intéressant. Ouais. Donc, je pense quand on se lance en plus avec une solution digitale comme ça, c'est beaucoup plus faisable d'aller pitcher sans avoir quelque chose d'établi derrière et de lever directement. Ok. Intéressant. Aujourd'hui, quel est le business model d'Invivox? Comment vous gagnez de l'argent? Qui paye?
Alors, ce qui est marrant, c'est l'évolution du business model. C'est-à-dire, quand on s'est lancé à l'époque, on était vraiment sur un business model à la Airbnb. Un médecin nous disait, pour venir passer 2 jours de formation avec moi, ça va vous coûter 500 euros. Et nous, on prenait une commission de 20% là-dessus. Et ça, ça a été Invivox pendant quelques années. Et puis, la crise est arrivée. Et avec la crise, ça a été la fin des formations présentielles. Hein, les médecins les hôpitaux étaient fermés, interdiction
de voyager. Juste pour donner un détail, on parle de la crise de 2008 là.
Tout à fait. on parle de la crise de 2000, la belle crise de la Covid là dans laquelle on est en plein cœur. Et cette crise.
Covid ou 2008 du coup?
Non, la crise actuelle.
D'accord. Donc le pivot, il s'est fait super récemment alors.
Ah, le pivot, il s'est fait cette année, ouais.
Ouais. D'accord, ok, intéressant.
Non,
Ok, donc vous avez eu pendant quand même pas mal d'années alors ce système de.
pendant 3 ans, en fait,
De commission, d'accord.
nous on a créé une Divox il y a 4 ans de ça. Pendant 3 ans, on a vécu sur de la commission. En tout cas, c'était le modèle. Et puis, avec l'arrivée de la crise, patatras, les formations présentielles ont disparu, hein, puisque plan blanc, urgence sanitaire, interdiction de voyager, les médecins étaient complètement sous l'eau. Donc, évidemment, toutes ces formations ont complètement disparu, et jusqu'à aujourd'hui encore, hein. Et donc, on a dû réinventer un modèle. Et ce modèle qu'on a réinventé, c'est un modèle en fait en abonnement qui permet à des hôpitaux, qui permet à des industriels du dispositif médical, à des laboratoires pharmaceutiques, de poster sur la plateforme Invivox toute leur offre de formation digitale, c'est-à-dire des webinaires, des classes virtuelles, des cas cliniques interactifs, des modules de e-learning. Et en fait, on a complètement changé, shifté, hein, et on propose aujourd'hui un abonnement à la plateforme qui permet à tous ces gens-là, ben, de centraliser leur offre et de publier leur offre sur Invivox.
D'accord. Donc, qui s'abonne? Ce sont les établissements qui s'abonnent pour pouvoir publier. Et elle, ça représente, donc vous devez faire des packages, des abonnements un peu sur mesure pour ces établissements, parce que j'imagine que en fonction de leur taille, de leur offre, tout ça, ça diffère.
Exactement, exactement. Alors, on fait différents types d'abonnements. Il y a un abonnement pour les établissements, et puis il y a aussi un abonnement pour les industriels. Hein, les industriels du dispositif médical ont besoin en permanence de former leurs
Ouais.
clients. Quand ils lancent un nouveau produit, quand
Complètement.
il y a une extension d'indication, ils ont besoin de former et reformer leurs clients. Donc en fait, nous, on a développé des outils qui leur permettent de former à distance, avec des capsules produits, avec des cas cliniques interactifs, avec des classes virtuelles qui leur permettent de partager un film, par exemple, de former leurs clients. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est de garder la relation avec ses clients pour les industriels, hein, puisque le plan d'urgence sanitaire ferme l'hôpital. C'est-à-dire
Ouais.
quand vous êtes un visiteur médical, dont on a parlé au début du podcast, vous n'avez plus le droit de rentrer à l'hôpital. Et
Ouais.
donc, quasiment, votre métier disparaît. Sauf que, voilà, aujourd'hui, les médecins ont encore le besoin de se former, de s'informer, et donc on met à disposition des outils pour faciliter cette relation entre les industriels et les professionnels de santé.
D'accord. Donc au final, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un switch du compagnonnage à maintenant de la formation, donc de l'industrie aux utilisateurs? Est-ce
Alors,
qu'il y a, ou est-ce qu'il y a encore toujours ce business model d'une certaine manière de formation de peer-to-peer comme il y avait au début, pendant pendant les 5 dernières années?
Compagnonnage a disparu. C'est-à-dire que
Complètement.
un effet de la crise, hein, c'est que les médecins n'ont plus le droit de voyager, ils n'ont plus le temps de voyager aujourd'hui, hein, puisqu'il y en a énormément qui doivent rattraper toutes les opérations, toutes les consultations qu'ils n'ont pas pu faire pendant la Covid. Avec la deuxième vague, ça complique encore les choses, les hôpitaux sont fermés. Donc aujourd'hui, le compagnonnage a quasiment disparu. Il reviendra, hein,
Ouais.
c'est sûr, il reviendra, parce que
D'accord.
c'est quand même la formation la plus efficace. Mais ce qui a pris le pas aujourd'hui, finalement, ce sont des formations online.
Et comment vous l'avez fait, vous, ce switch? Parce que du coup, vous vous adressez maintenant non plus à une forme de business to consumer comme vous pouviez avoir avec des individus ou des experts à l'unité, on va dire, à maintenant des industriels et leurs clients. Comment vous avez changer donc tout ce business, on va dire, vous avez dû reformer vos équipes pour s'adresser non plus à des foules, on va dire, de médecins, à des cibles beaucoup plus larges, à maintenant des clients un peu uniques, des comptes clés presque.
Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que pour nous, tout a démarré avec la Covid en mars. Hein, toute notre offre de formation présentielle a disparu. Et donc, et on a fait ça quasiment un week-end, on a fait ça en 4 jours, on a proposé sur la plateforme un système qui permettait à tous les médecins, de manière complètement gratuite, d'utiliser des outils digitaux pour partager leur expérience avec d'autres médecins. Et on a commencé par aller chercher des médecins italiens parce qu'ils avaient de l'avance au niveau de la Covid sur les médecins français. On est allé chercher des médecins obstétriques, par exemple, qui faisaient face à des femmes enceintes qui étaient Covid plus et qui partageaient avec des obstétriciens français, belges, maghrébins, africains, bah, comment est-ce qu'ils protégeaient la maman? Comment est-ce qu'ils protégeaient le personnel soignant, la sage-femme? Comment est-ce qu'on gérait le bébé? Et en fait, tout a démarré comme ça. Et il y a eu un engouement énorme parce que tout le monde avait besoin, face à cette situation inédite, d'entendre comment est-ce que les autres faisaient. Et en fait, ouais. on s'est mis à former, mais vraiment, des médecins en masse. C'est-à-dire que sur ce type de webinaire, on a formé jusqu'à 600, 800 personnes d'un coup qui venaient écouter l'expérience des autres et se dire, bon, OK, si ça nous arrive et ça va nous arriver, ben, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette expérience, hein? Et en fait, on s'est mis à former énormément de monde, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on a formé 35 000 professionnels de santé, alors qu'auparavant, on formait plutôt 2000 professionnels de santé par mois. Donc, on a multiplié les volumes par 10, par 20, parce qu'il y a eu un besoin énorme, et puis parce que tout à coup, tout le monde pouvait, en se mettant derrière son ordinateur, accéder à un confrère qui partageait son expérience avec ses confrères.
Ouais, c'est monstrueux comme changement pour une entreprise. Là, vous êtes combien chez Envivox et où est-ce que vous voulez aller dans le futur, donc avec ce nouveau business model?
Alors, aujourd'hui, chez Envivox, on est 32. On a réussi à garder absolument toute l'équipe. Au mois de mars, je faisais moins le fier, hein. C'est-à-dire que au mois de mars, je pensais vraiment que on allait plier les Gaules et rentrer chez nos mères, comme on dit à Marseille. Et en fait, parce qu'on a su changer le business model, aussi parce qu'on a pu bénéficier du chômage partiel, hein. On a mis tout le monde en chômage partiel à 75% au mois d'avril, et puis petit à petit on a réduit, hein, parce que quand on a senti que les choses revenaient, ben on a réduit 50%, et puis ensuite tout le monde est repassé full time à partir du 1er juin. On a su aussi bénéficier du PGE. On a la chance chez Envivox d'avoir une DAF assez exceptionnelle et qui a su justement gérer toute cette partie là. Pour nous, ça a été un véritable choc. Et aujourd'hui, si on est 32, je suis même aujourd'hui étonné qu'on soit encore au complet. Et on s'apprête à lancer de nouveaux recrutements parce qu'il y a une énorme demande aujourd'hui pour des formations online.
Mmh. Donc, c'est quoi vos besoins, vous, en termes de que ce soit de profil ou même de partenariat? C'est quoi la vision d'Invivox pour les prochaines années dans ce contexte de crise, post-crise?
La vision, c'est véritablement d'innover en permanence pour permettre aux professionnels de santé de partager leurs connaissances, hein, et de créer tous les outils qui vont leur permettre d'innover et aussi faciliter l'innovation, c'est-à-dire travailler sur ce qu'on appelle l'UX, hein, pour que ce soit le plus simple possible pour les professionnels de santé, pour que ce soit le plus aussi à la demande, à la carte, hein, puisque c'est l'effet de la crise, c'est des gens qui ne peuvent pas véritablement, quand ils s'inscrivent à un webinaire, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir y assister. Donc l'important derrière, c'est de pouvoir leur proposer le replay, et que le replay soit plutôt du replay intelligent, hein, ce qu'on appelle nous du smart replay.
Oui, on peut avancer, naviguer.
Voilà. Et on peut poser des questions dedans, on peut revenir, et surtout qu'ils soient disponibles sur une plateforme où ils aient juste à cliquer sur un bouton et ça se lance automatiquement, parce qu'en fait, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Donc nous, notre objectif interne, c'est justement de continuer à proposer ces outils et puis de multiplier en fait l'offre sur la plateforme, que ce soit une offre qui vient des hôpitaux, une offre qui vient des industriels, une offre des organismes de formation. Donc tout ça, ça fait partie de nos gros objectifs 2021.
Tout ça en télétravail, du coup? Quasiment. Ou est-ce que vous êtes en présentiel?
Alors nous, on suit les consignes sanitaires. C'est-à-dire qu'on c'est compliqué sinon. Mais aujourd'hui, par exemple, là, je suis au bureau de Bordeaux. D'habitude, il y a 32 personnes. Et bien aujourd'hui, on était 3. Les gens viennent le lundi matin parce qu'on organise quelques réunions. Et puis ensuite, tout le monde rentre chez soi. C'est marrant.
Comment vous avez fait ce changement? Est-ce que ça a été difficile?
C'est un énorme débat chez nous. C'est même un conflit de génération. Parce que moi, je crois sincèrement à l'importance de travailler ensemble. Et notamment quand on est une petite équipe. Hein, on dit souvent, ouais, comment vous faites les startups pour être aussi réactives? On est des petites équipes, donc l'information circule très très bien. Et l'information circule aussi de manière assez informelle. Et elle circule bien parce qu'on est tous ensemble dans un bureau. Et on s'aperçoit que quand on quitte le bureau, quand on est explosé, quand on se voit moins, l'information circule moins, il y a des malentendus, des quiproquos, des choses qui avancent moins bien. Donc on essaye de trouver le bon milieu, le juste équilibre entre un peu de bureau, un peu de télétravail. Et finalement, enfin, moi je suis persuadé que ce qui fait la motivation des équipes, c'est l'équilibre. Donc un équilibre entre le être heureux de venir au bureau et puis pouvoir en revanche s'organiser son télétravail. Mais tu vois, moi j'ai une anecdote que je trouve assez amusante. L'un de mes clients qui me disait qu'il a mis toute son équipe, hein, un client dans la santé, il a mis toute son équipe justement en télétravail. Et c'est une équipe de personnes qui avaient plutôt 35-50 ans. Hein, c'est une boîte provinciale. Et un jour, il revenait à son bureau pour, entre midi et deux pour récupérer des documents. Et en passant là devant le bistrot, il a retrouvé toute son équipe en train de déjeuner au bistrot. Et donc, il est allé les voir et il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et son équipe lui a dit « Écoute, tu nous as interdit de venir au bureau, mais déjeuner ensemble, nous, ça fait 15 ans, deux fois par semaine, on déjeune tous ensemble, on aime. » Tu vois, c'est des gens qui aiment travailler.
Vivre ensemble et travailler ensemble.
Et qui ont besoin, et certains faisaient 30 minutes de voiture aller, 30 minutes de voiture retour. Mais qui disait, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de se retrouver, on a besoin de partager, de discuter autour d'un repas, dans le bistrot dans lequel on fait ça tout le temps. Et c'était, et moi, je trouvais ça assez édifiant.
Ouais, c'est touchant en même temps. Ouais. Ça montre l'attachement et ça, c'est aussi une sorte de réussite, je pense, pour une entreprise de voir quelque chose comme ça qui est mis en place sans être incité par l'entreprise en tant qu'entité, quoi.
Ah ouais, mais moi j'ai bien aimé le côté, on peut pas nous empêcher de.
Très bien. Écoute, on arrive sur la fin, Julien, de cet échange. C'était super. Quel serait ton conseil au Julien qui souhaite entreprendre dans la santé à la trentaine?
Alors, mon conseil. Première chose, la curiosité. Hein, on en a déjà parlé. Je pense que la curiosité, c'est le premier signe de l'intelligence. Hein, les gens curieux posent des questions, les gens curieux doutent, et qu'il faut justement être très très curieux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Souvent, la bonne idée, c'est pas celle qu'on va avoir, c'est celle que d'autres ont eu et qu'on va adapter à un autre secteur. Hein. Et ça, en fait, on le découvre par curiosité. En se baladant, en rencontrant des gens, en allant sur le net, en marchant dans les rues, en réfléchissant. Je pense que les gens qui veulent se lancer, il faut être premièrement curieux. Curieux, il faut être discipliné. Il faut être très, très discipliné quand on veut être entrepreneur. Parce qu'il y a des sollicitations dans tous les sens. Les gens veulent toujours nous donner des conseils. On est invité à plein de choses qui nous mettent en valeur. Et il faut vraiment se discipliner pour se dire, voilà, j'ai un plan, je m'y tiens. Et souvent, en fait, c'est d'être capable de se tenir à ce plan qu'on s'est mis en tête. À des moments, il faudra avoir de la flexibilité si jamais on s'aperçoit qu'on est en train de foncer dans un mur. Mais ne pas écouter justement toutes les personnes qui vont dire « Non, mais tu pourrais aussi faire ci, tu pourrais aussi faire ci. » Tout le monde a plein de bonnes idées pour nous. Et par moments, il faut juste mettre des œillères, se discipliner et aller au bout des choses. Donc moi, les deux conseils que je donnerais, ça serait curiosité et discipline, voilà.
Et discipline, super, très bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu consommes actuellement qui t'inspirent au quotidien pour entreprendre dans la santé?
Des ressources,
que ça soit une personne que tu suis, que tu apprécies et que tu qui produit du contenu, ou même je sais pas, ça peut être quelque chose que tu as lu dans le passé. C'est pas la même question parce que là il y en aura sûrement, mais...
moi l'entrepreneur qui m'inspire beaucoup, c'est l'abbé Pierre. En 1952 ou en 1953, quand il lance Emmaüs, je trouve que c'est sûrement une des plus belles sociétés qui a été lancée, Emmaüs. Ce qu'il a appelé l'insurrection de la bonté, hein, son appel pour l'insurrection de la bonté. Il fait travailler des gens qui, justement, ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver du travail. Il travaille sur quelque chose aujourd'hui qui est ultra écologique, c'est-à-dire recycler. Hein, il a essaimé dans le monde entier. Il a véhiculé une image qui est extraordinaire. Donc moi, quand je quand je cherche quelqu'un, quand je cherche pour m'inspirer, je vais pas aller chez Google ou je vais pas aller chez Microsoft. Je peux y aller aussi, hein. Quand j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a eu une vie avec du sens, avec des valeurs et qui a créé une entreprise qui a eu du sens et de la valeur, c'est l'abbé Pierre.
Super. Merci beaucoup, Julien, pour ton temps. Et puis, j'espère que cet échange inspirera d'autres entrepreneurs en santé qui trouveront de l'inspiration, des conseils, de la motivation pour se lancer.
Merci Jean-Baptiste et félicitations pour la création de ce média. La naissance d'un nouveau média, c'est toujours une excellente nouvelle pour la démocratie. Et je trouve que aujourd'hui, particulièrement après l'assassinat barbare de ce professeur, on a besoin de bonnes nouvelles pour la démocratie.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.